c'était dans le programme et c'était une caricature de Charlie Hebdo. C'est pas lui qui l'a fait. Et en plus, il a demandé aux gens que ça pouvait choquer de sortir. Je me dis tout ça pour une image.
Il avait montré les caricatures de Mahomet à ses élèves, il en a payé de sa vie. Un professeur d'histoire géo a été décapité hier devant son collège dans les Yvelines. Une attaque terroriste perpétrée par un jeune homme de 18 ans d'origine tchétchène qui a été abattu par les forces de l'ordre.
Emmanuel Macron s'est rendu sur place dans la soirée. L'obscurantisme ne passera pas, c'est le message du chef de l'État. Il a appelé à faire bloc autour des enseignants.
Autre titre de l'actualité, le couvre-feu sanitaire. Il est entré en vigueur à minuit tout à l'heure dans les métropoles les plus touchées par le Covid. Et ce soir, ce sera encore plus tôt, pas de sortie après 21h, il va falloir s'y faire.
Ce qui ne va pas nous empêcher de mettre les voiles en fin de journal. Direction les Sables d'Olonne, d'où s'élancera le Vendée Globe dans 3 semaines.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est le cœur de la République qui a décidé de frapper hier soir un jeune homme de 18 ans. Ce jeune d'origine tchétchène s'en est pris à un enseignant, un acte de barbarie inqualifiable.
Un professeur d'histoire géo a été tué, décapité devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Le drame s'est produit hier soir vers 17h, une dizaine de jours après un cours d'éducation civique, pendant lequel le prof avait montré les caricatures de Mahomet à ses élèves. Cet attentat serait donc un acte de vengeance. Il a en tout cas plongé toute une ville dans les froid. Un reportage à Conflans de Nicolas Feldman.
On a l'impression que ça arrive qu'aux autres, mais non, c'est à nos portes, c'est chez nous. Quoi.
En bas de chez Alfredo, le collège n'est qu'à une centaine de mètres. Le long de cette petite rue paisible, bordée de maisons, on trouve le stade de foot, le gymnase, un quartier pavillonnaire, tout ce qu'il y a de plus calme. Mais hier, l'horreur s'est invitée à sa porte.
Bah, j'ai un ami à moi qui est passé, qui a vu le corps. Il nous a averti directement qu'il y avait un corps par terre là-haut, qu'il fallait qu'on fasse attention. En fait, la police a fait rentrer mon fils en urgence, il sortait de l'école. Ça les inquiète, les enfants. Et ben nous aussi surtout.
Hier soir devant l'établissement, des collégiens, d'anciens élèves téléphonent en main. Virginie a 15 ans, elle le précise, elle est de confession musulmane et elle se souvient bien de ce professeur d'histoire géo il y a 2 ans. Il présentait aussi à sa classe la une de Charlie Hebdo.
J'étais en 4e et il a montré l'image. C'était dans le programme et c'était une caricature de Charlie Hebdo. C'est pas lui qui l'a fait. Et en plus il a demandé aux gens que ça pouvait choquer de sortir. Enfin, moi, je me sentais pas discriminée par lui. C'est-à-dire, je me disais pas que c'était raciste de sa part ou islamophobe. Ça m'a pas choqué. Je me dis tout ça pour une image. C'est dommage de tuer quelqu'un pour ça.
Une image qui s'inscrivait dans un cours sur la liberté d'expression au programme de tous les collèges de France.
Un reportage de Nicolas Feldman à Conflans-Sainte-Honorine. Le terroriste a été abattu juste après l'attentat. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Et ce matin, 4 personnes de l'entourage du tueur sont en garde à vue.
En milieu de soirée, le président Macron s'est rendu sur place entouré de ses ministres de l'Intérieur et de l'Éducation. Lors d'une très courte prise de parole, il a lancé un appel à l'unité.
Je veux dire ce soir de manière très claire, ils ne passeront pas. Nos policiers, nos gendarmes, l'ensemble de nos forces de sécurité intérieure, nos forces de renseignement, mais au-delà de cela, toutes celles et ceux qui tiennent la République, et à leur côté magistrats, élus, enseignants, tous et toutes, nous ferons bloc. Ils ne passeront pas. L'obscurantisme et la violence qui l'accompagne ne gagneront pas.
Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Chef du service politique d'Europe 1, cet attentat touche au cœur de la République. Il met le pouvoir à l'épreuve et il va falloir rapidement apporter des réponses.
Oui, il faut faire bloc. L'expression est une référence à Georges Clemenceau dans un discours sur la République. Emmanuel Macron ne s'est pas trompé sur la puissance symbolique de cet attentat en plein procès des assassins de Charlie Hebdo. Une fois de plus, c'est la liberté d'expression qui est visée et l'onde de choc dans le pays va être considérable. Un enseignant décapité parce qu'il faisait son travail en France. Autrement dit, les pratiques de l'État islamique ont désormais cours sur le territoire national. C'est depuis quelques semaines le cauchemar de l'exécutif, régulièrement alerté sur ce risque. Mais les mots du président hier, il y avait une autre prise de conscience. Il faut protéger nos enseignants, dit Emmanuel Macron, car il faudra aussi apporter une réponse à cette question. Que s'est-il passé entre la hiérarchie de l'éducation nationale et ce professeur d'histoire géo lorsqu'il a été menacé? A-t-il été suffisamment soutenu et protégé? Les brigades de la laïcité mises en place par Jean-Michel Blanquer ont-elles été activées? Bref, est-ce que l'éducation nationale a fait bloc autour d'un enseignant menacé parce qu'il faisait son travail? Au-delà de l'émotion, il faudra donc apporter ces réponses aux Français déjà accablés par une crise sanitaire et économique. Le terrorisme islamique est un virus qui ne s'éteint pas, il est en constante mutation et maintenant il s'étend sur le mode de la génération spontanée. un front supplémentaire pour un président de la République qui passe d'une crise à l'autre sans discontinuer.
Merci. Michaël Darmon. Et parmi les réactions politiques, on citera celle de François Hollande, qui était président lors des attentats de Charlie Hebdo. Il a appelé hier soir à l'unité face à la barbarie et à l'obscurantisme.
À l'origine, semble-t-il, de ce drame, il y a donc ce cours d'éducation civique dispensé par ce prof il y a une dizaine de jours, ce cours sur la liberté d'expression. Diane Berger, on parle d'un cours qui figure au programme de l'éducation nationale.
En effet, c'est un cours donné par les professeurs d'histoire géo, il n'y a pas de programme précis, mais l'éducation nationale donne trois objectifs, apprendre aux élèves à respecter les autres, construire une culture civique et transmettre les valeurs de la République. La laïcité et la liberté d'expression font donc partie des thématiques abordées, explique Jean-Rémy Girard, président du SNALC, le syndicat national des lycées et des collèges.
Mon collègue était en train de traiter son programme. Il est en train de traiter des choses qu'il faut continuer de traiter à l'éducation nationale. Heureusement qu'on peut encore parler de liberté d'expression dans nos écoles, dans nos collèges et dans nos lycées, parce que le jour où on ne pourrait plus en parler, ça voudrait dire qu'on aurait perdu. On baisserait les bras.
Dans une publication du bulletin officiel de l'éducation nationale qui date de 2018, il est précisé que l'enseignant exerce sa responsabilité pédagogique dans la mise en œuvre de ce cours. En d'autres termes, c'est lui qui choisit la manière dont les notions sont traitées. Et selon l'association des professeurs d'histoire et de géographie, les caricatures de Charlie Hebdo ne sont pas obligatoires, mais c'est un support tout à fait possible pour traiter de la liberté d'expression.
Les explications de Diane Berger pour Europe 1. Sachez que les syndicats enseignants seront reçus par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, dans la matinée.
Et on reparle de ce drame ignoble tout à l'heure avec le professeur de criminologie Alain Bauer. Il est notre invité tout à l'heure à 8h15, 8h06. Dans un instant, 20 millions de Français seront... Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre hier soir, leur limite c'était minuit. Mais ce soir, prévoyez un retour à la maison avant 21h. Le couvre-feu va toucher un tiers des Français.
Le pays est de nouveau placé sous état d'urgence sanitaire. Dans les dernières 24 heures, le Covid a fait 122 victimes. Et c'est bien pour freiner cette épidémie que des métropoles entières sont placées sous cloche dès la nuit tombée. L'Île-de-France, les métropoles de Lille, de Lyon, de Toulouse, de Grenoble ou encore d'Aix-Marseille, où certains habitants doutent de l'efficacité de la mesure. Par endroits, en Provence, le Covid paraît bien loin. Reportage de Nathalie Chauvence.
Dans ce joli village provençal de 1500 âmes, situé à trois quarts d'heure de Marseille, l'unique restaurateur ne décolère pas contre ce couvre-feu, car ici, aucun cas de Covid signalé. Alors la fermeture à 21h avec une clientèle d'habitués, c'est un coup de massue pour la vie de Cornillon-Confoux, estime François, gérant du Beffroi.
À Cornillon, zéro Covid, que des locaux. Voilà, on paye les pots cassés, des grandes villes. Nous, on est le seul bar-restaurant pur et dur du village. Quoi. On est l'âme du village et tout, et on perd tout. Quoi. J'ai de la haine, quoi, parce que je paye les pots cassés de Aix, de Marseille. C'est deux poids, deux mesures. Quoi.
Avec le risque que la clientèle locale se déplace dans les villages alentours, hors métropole, comme le pointe le maire Daniel Gagnon.
Commune d'Oreille, pas de couvre-feu. Le puits Saint-Thérèse-Parade, cabane, pareil, pas de couvre-feu. C'est complètement stupide et incohérent. Les flux de circulation, les gens bougent. L'État, la verticalité de l'État, Cornillon, c'est pas Marseille. Vous voyez l'hôpital de Salon, vous voyez l'hôpital de Martigues, vous voyez l'hôpital d'Arles. Il y a 14 cas au total en réanimation. Marseille, il y en a 100. Beaucoup d'amertume.
Et au sein de la métropole, ils sont des dizaines de maires de petites communes à espérer sortir au plus vite du couvre-feu. Cornillon-Confoux, Nathalie Chevance, Europe 1.
Sachez que des dérogations à ce couvre-feu existent. Vous avez le droit d'aller travailler, d'aller promener votre animal de compagnie, d'aller vous faire soigner. Une attestation est téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy estime que son innocence a été bafouée à nouveau. L'ancien chef de l'État se défend sur son compte Facebook. Hier, il a été mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'enquête sur le financement libyen présumé de sa campagne en 2007.
Les politiques et les juges, ce sera le thème de l'édito de Catherine Ney tout à l'heure à 8h40. 8h10, énième épisode dans le feuilleton du Brexit. Une nouvelle fois, les dirigeants européens étaient réunis à Bruxelles et une nouvelle fois, ils se sont quittés fâchés.
Aucun accord après 48 heures de négociations. En théorie, les Européens et les Britanniques doivent se retrouver lundi à Londres pour reprendre les discussions. En théorie, car les Anglais menacent de suspendre tout le processus, Isabelle Horry.
C'est un rebondissement inédit dans la partie de poker qui se joue de part et d'autre de la Manche. Londres a fait savoir que ce n'était pas la peine que l'équipe de négociation Michel Barnier monte dans le train Eurostar lundi. Officiellement, les Britanniques sont furieux, déçus par la réunion des dirigeants européens cette fin de semaine à Bruxelles. Boris Johnson brandit la menace d'un no deal, d'une sortie sans accord. Il exige des changements fondamentaux dans les positions de l'Union européenne avant de reprendre les discussions. À Bruxelles, cette soudaine accélération a surpris. On a a du mal à les suivre, soupire une source européenne. L'équipe de Michel Barnier ajoute qu'un entretien téléphonique est quand même prévu entre les négociateurs en début de semaine. Les Européens veulent rester calmes, mais ils reconnaissent qu'en quelques heures, l'ambiance s'est détériorée. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1.
Les sports, et voici une compétition qui rassemble chaque année plusieurs centaines de milliers de personnes et qui évidemment sera transformée cette année en raison du Covid.
Les skippers du Vendée Globe s'élanceront des Sables d'Olonne dans 3 semaines. On ne verra pas cette année ces images de foules impressionnantes, ces plusieurs centaines de milliers de personnes le long du chenal. La situation sanitaire évidemment ne le permet pas, mais les passionnés de voile peuvent tout de même goûter à l'ambiance de cette course mythique puisque le village du Vendée Globe s'ouvrira tout à l'heure. Reportage sur place de notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon.
Entrée sur réservation, on est très loin de l'esprit super festif et maxi-fréquentation des précédentes éditions. Pas plus de 5000 personnes simultanément dans le village du Vendée Globe et le long des pontons. Les skippers masqués eux aussi resteront plutôt à distance d'un public compréhensif, Liliane.
C'est à nous de faire attention à eux, c'est certain, il ne faut pas qu'on les approche. Et je comprends qu'ils ne viennent pas non plus vers nous. Hein. C'est trop important pour eux, ça fait des années qu'ils se préparent. J'ai une admiration pour ces gens, c'est grandiose. Ils ont un courage, ces gens-là, exceptionnel.
Dans un département qui vient de passer en situation de vulnérabilité élevée, les skippers se plient à un protocole sanitaire exigeant. Clément Giraud sur Compagnie du Lit.
On s'est lavé les mains 200 fois alors qu'on n'était que 3 sur le bateau pendant 3 jours. On fait attention, là je vais justement me faire tester. On va se confiner beaucoup plus tôt que ce qui est préconisé, 2 semaines et demie avant. En famille, tester avant, prendre le maximum de précautions. Ma pensée, elle va plutôt pour ceux qui sont en train de galérer dans les hôpitaux, à essayer de gérer ça.
Le 8 novembre, jour du départ, 9000 personnes seulement pourront applaudir les héros le long du chenal des Sables. Il y a 4 ans, ils étaient 350 000. Les Sables d'Olonne, François Coulon, Europe.
Toute la matinée en cette journée de départ en vacances, on vous accompagne sur la route.
Le radioguidage sur Europe 1 avec les opticiens Atoll pour être sûr de bien voir aussi la nuit au volant.
Damien Mestre, on fait le point avec vous. Ça reste très tranquille à l'heure qu'il est.
Oui, cela freine seulement un peu sur l'A61 en direction de Narbonne à partir de Carcassonne. Idem sur l'A36 de Belfort vers Mulhouse. Mais globalement, c'est plutôt tranquille sur les routes pour l'instant. Cela pourrait bouchonner d'ici une heure, notamment sur l'A10 depuis Paris en direction du sud.
Le point route signé Damien Mestre.
Merci, c'était le journal de Marguerite Lefebvre. Vous restez avec nous dans un instant.